Voici arrivés à la conclusion de la retraite. Il me semble que on va mieux conclure que d'évoquer en terminant la dévotion que nous devons avoir à nos saints patrons et en particulier à la très sainte Vierge Marie, à saint Joseph et à saint Pédis. À l'occasion de votre ministère, à l'occasion de toutes les circonstances dans lesquelles vous vous trouverez pour exercer votre ministère, vous aurez souvent tendance à faire appel à l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de saint Joseph, de saint Pédis. Pour essayer de vous venir en aide. Et particulièrement, évidemment, la très sainte Vierge Marie. C'est d'ailleurs le quatrième moyen dont parle notre saint Louis-Marie-Guillaume de Montfort pour acquérir la sagesse. Quatrième moyen. Une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Voici enfin le plus grand des moyens et le plus merveilleux de tous les secrets pour acquérir et conserver la divine sagesse, savoir une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Et Saint-Louis-Marie-Montfort développe cela pendant plusieurs pages. Et ce n'est pas une idée particulière au bienheureux de Montfort, enfin au sein de Montfort, parce que on peut dire que la dévotion à la très sainte Vierge doit prendre place dans notre apostolat, dans notre théologie. La dévotion à la Sainte Vierge n'est pas une dévotion facultative. Alors que pour les autres saints, éventuellement, on peut dire que les dévotions sont plus ou moins facultatives. Pour la Sainte Vierge, non. Non. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux et de regardez le nombre de sanctuaires dans toute l'Église catholique, partout où l'Église catholique s'est répandue, le nombre de sanctuaires qui sont voués, qui sont mis sous le patronage de la très sainte Vierge Marie. C'est presque incalculable. Et donc l'Église a inculqué à ses enfants, à inculquer à ses disciples cette dévotion à la très sainte Vierge Marie. Et cette dévotion a été très, très entendue par les fidèles. Et pourquoi cela? Bien sûr, parce que dans sa sagesse, le bon Dieu a voulu se donner une mère. C'est évidemment choisir une créature qui soit la mère de Dieu, c'est vraiment un mystère qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et évidemment, ça donne une place privilégiée à cette créature. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit, nous, de négliger cela. Il est vrai que dans toutes ces dévotions à la Sainte Vierge que nous constatons partout, tous ces pèlerinages, ces basiliques, ces sanctuaires qui sont voués à la très Sainte Vierge Marie, il y a alentour de toutes ces dévotions normales, ces dévotions qui sont justifiées par l'Église, il y a des dévotions qui peuvent paraître un peu superstitieuses, c'est vrai, exagérées, voire même fausses, plus ou moins inventées, d'ailleurs peut-être par le diable, pour essayer de nous détourner de cette dévotion. Alors, effrayé par toute cette prolifération des soi-disant apparitions, messages, communications célestes, que sais-je, il est évident que on pourrait avoir tendance à un peu marginaliser, si je puis dire, la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, et dire, après tout, ayons la dévotion à notre Seigneur, à ses mystères, et vraiment, on ne sait plus qui croire, n'est-ce pas, dans toute au milieu de tous ces messages, et toutes ces apparitions, vraies ou fausses, nous ne savons plus rien, n'est-ce pas, qui se multiplient à travers, au milieu des fidèles et même de nos fidèles traditionnalistes. Mais nous aurions tort de négliger la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie à cause des abus. Ne tombons pas dans ces abus, dans ces exagérations, mais demeurons précisément fidèles au principe de la théologie mariale, de la mariologie, enfin de ce que la théologie nous enseigne au sujet de la Vierge Marie. Et reconnaissons que vraiment le bon Dieu lui a donné un rôle vraiment extraordinaire, incroyable. Et ce rôle, il est clair que Dieu a voulu qu'elle l'ait d'une manière permanente. Saint Joseph aussi a eu un rôle extraordinaire, c'est pourquoi je voudrais aussi vous en dire un petit mot, mais cependant, le bon Dieu a permis qu'il meure avant sa vie publique. Alors que la Vierge Marie, au contraire, a accompagné vraiment le ministère de notre Seigneur et la réalisation de son œuvre de la rédemption et de la sanctification des âmes jusqu'au bout. Dans tout son complément, elle a été là, présente au premier miracle de sa vie publique. Elle a été présente à son sacrifice. Elle a participé intimement à son sacrifice. Elle a été présente à la Pentecôte, donc à l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église. Et elle a été présente encore après la Pentecôte. Le Seigneur aurait pu l'apprendre à ce moment-là. Non, il a voulu encore qu'elle soit là, pendant quelque temps au milieu des premiers chrétiens. Il est certain que sa présence a dû encourager les apôtres et les premiers chrétiens, surtout quand les persécutions ont commencé. Alors il est clair que ce fut la volonté de Dieu que Marie soit active dans toute l'œuvre de la rédemption. Dans tous ces grands mystères de l'incarnation et de la rédemption, la Très Sainte Vierge a été vraiment choisie d'une manière toute particulière, c'est absolument évident. Et c'est pourquoi donc, la Sainte Vierge, continuant ce rôle, a voulu au cours des siècles se manifester encore auprès de son Église. Elle considère son Église comme son œuvre, c'est son œuvre. C'est par elle que toutes les grâces nous viennent, c'est la foi de l'Église, de Marie médiatrice, de toute grâce. Et donc, elle vient encore soutenir la foi de ses enfants, n'est-ce pas, de ses fidèles. Et il est certain que les véritables apparitions de la Très Sainte Vierge Marie ont contribué beaucoup au maintien de la foi dans les pays dans lesquels elle est apparue, et même dans les autres pays qui sont venus en pèlerinage aussi à ces lieux où la Très Sainte Vierge est apparue. Et puis, son message, ses messages très simples, bien souvent, c'est un signe d'ailleurs, on peut dire, des véritables apparitions, la discrétion de la Très Sainte Vierge Marie, la précision de ses apparitions, en même temps sa discrétion. Les pèlerinages où Marie a parlé, à faire des volumes, n'est-ce pas, on peut vraiment se demander si la Sainte Vierge a été aussi prolixe, si c'est bien exact. À Lourdes, par exemple, prière, pénitence, ça a été au fond le leitmotiv. Fatima, la même chose, prière, pénitence. Marie, au fond, essaye de nous communiquer la sagesse de la croix, c'est ça, et c'est précisément ce sur quoi insiste le saint de Montfort, n'est-ce pas, que pour arriver à bien comprendre le grand mystère de la croix, il faut s'adresser à la Sainte Vierge Marie. C'est le moyen le plus sûr et le plus rapide de pénétrer ce grand mystère. Il est certain qu'il n'y a aucune créature qui n'ait participé vraiment au mystère de la croix comme la Vierge Marie. Elle a sûrement eu des grâces extraordinaires pour comprendre et la croix et s'associer à ce sacrifice divin. Alors pour nous, prêtres, vous allez, avec la grâce de Dieu, après-demain, déjà célébrer votre première messe définitive. Et ensuite, le bon Dieu, espérons que le bon Dieu vous en donnera le plus possible. Vous pouvez être quartam générationnel. Alors vous allez vraiment aussi avoir cette intimité avec la croix de notre Seigneur. Vous allez donc chaque jour la méditer un peu plus, vous en approchez toujours davantage. Demandez à la Vierge Marie de vous donner des grâces particulières pour bien comprendre ce mystère et de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, et d'aider les fidèles à comprendre cette importance du mystère de la croix. Alors le saint de Louis-Marie, enfin lui se demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Donc il faut avoir une grande dévotion envers la Vierge Marie, mais pratiquement, à quoi ça consiste cette dévotion? Alors il explique évidemment tous les privilèges de Marie. Aucune âme qui a gagné les bonnes grâces de Marie est heureuse. Elle doit se tenir comme assurée de posséder bientôt la sagesse. Et comme elle aime ceux qui l'aiment, elle leur communique ses biens à pleine main et le bien infini dans lequel tous les autres sont renfermés, Jésus, le fruit de son sein. Marie est la maîtresse de la sagesse. Marie est le trône royal de la sagesse. Il faut conclure ces vérités. Qu'en vain, on se flatte d'être enfant de Dieu et disciple de la sagesse si on n'est pas enfant de Marie. Deuxièmement, que pour être du nombre des élus, il faut que Marie habite et jette ses racines, des racines en nous par une tendre et sincère dévotion envers elle. Troisièmement, que c'est à elle à nous engendrer en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous jusqu'à sa perfection, la plénitude de son âge, en sorte qu'elle peut dire d'elle avec plus de vérité que saint Paul nous disait de lui-même, Je vous engendre tous les jours, mes chers enfants, jusqu'à ce que Jésus-Christ, mon Fils, ne soit parfaitement formé en vous. Alors, en quoi consistera cette vraie dévotion à Marie? Il dit, quelqu'un désirant d'être dévot à la Sainte Vierge me demandera peut-être en quoi consiste la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Je réponds en peu de mots qu'elle consiste dans une grande estime de ses grandeurs, une grande reconnaissance pour ses bienfaits, un grand zèle pour sa gloire, une invocation continuelle de son secours et une dépendance totale de son autorité, avec un ferme appui et confiance tendre en sa bonté maternelle. Alors il dit, il faut se garder des fausses dévotions. Il ne faut pas être du nombre des défauts critiques et scrupuleux qui craignent de rendre trop d'honneur à la Vierge, à la Sainte Vierge, et déshonorer le Fils en honorant la Mère. Il ne faut pas être de ces défauts indifférents et intéressés qui n'ont point un amour tendre ni une confiance filiale envers la Sainte Vierge et qui n'ont recours à elle que pour l'acquisition ou la conservation des biens temporels. Il ne faut pas être de ces défauts inconstants et légers qui ne sont défauts à la Vierge que par boutade ou pour quelque temps et qui se retirent de son service dans le temps de la tentation. Enfin, il faut bien prendre garde d'être du nombre des défauts présomptueux qui, sous le voile de quelques dévotions extérieures qu'ils pratiquent, cachent un cœur corrompu par le péché. Alors, voici, mais la plus parfaite et la plus utile de toutes les dévotions à la Sainte Vierge, c'est de se consacrer tout à elle et tout à Jésus par elle en qualité d'esclave, lui faisant une consécration entière et éternelle de son corps, de son âme, de ses biens, tant intérieurs qu'extérieurs, des satisfactions, des mérites de nos bonnes actions, et du droit qu'on a disposé, enfin de tous les biens qu'on a reçus par le passé, qu'on possède à présent et qu'on possédera à l'avenir. C'est ça, c'est la consécration, vous savez, du bienheureux de Montfort, la consécration à la Vierge Marie. Alors, c'est ce qu'il donne ensuite, la consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie. Voilà la dévotion, Saint Louis Marie Gagnon de Montfort conseille d'avoir une vraie dévotion à la Sainte Vierge et de se consacrer complètement à elle. Je pense qu'en effet, c'est une excellente chose que de se donner, se remettre dans les mains de sa mère, quoi, simplement. C'est une chose tellement, je dirais, qu'il est extraordinaire de soi, n'est-ce pas? Avoir confiance dans la Vierge Marie et lui remettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, pour qu'elle en dispose et qu'elle nous aide à en disposer pour le bien de notre âme et pour le bien des âmes dont nous sommes chargés. Alors, vous aurez donc profitez autant que possible de cette dévotion à la Très Sainte Vierge pour votre perfection personnelle, pour votre sanctification personnelle, mais aussi alors vous aurez justement à aider les fidèles à pratiquer cette dévotion vers la Très Sainte Vierge d'une manière conforme aux principes catholiques, conforme à la tradition de l'Église, conforme à la volonté du bon Dieu et à la volonté de la Très Sainte Vierge Marie elle-même, en évitant toute exagération. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus particulièrement difficile encore que précédemment. Avant, l'Église prenait en main toutes ces manifestations, n'est-ce pas ? Elle disait, telle manifestation, c'est faux. Telle manifestation, c'est vrai, faisait des examens, les évêques jugeaient, l'Église venait confirmer. Maintenant, les évêques ne veulent plus s'en occuper, a priori, c'est faux. Alors, ça met les fidèles dans le trouble complet, et ça permet aux démons de profiter du trouble des fidèles et d'introduire à l'occasion de ces apparitions qui ont pu avoir lieu ou qui n'ont pas eu lieu, on est difficile à savoir, eh bien, en tout cas, même si elles ont eu lieu, elles permettent de jeter le trouble et de désorienter complètement les fidèles, de diviser quelquefois les pèlerins eux-mêmes, de créer des divisions. C'est le cas, par exemple, de Garabandal et de San Damiano. Les évêques n'ont pas voulu s'en occuper, le diable s'y est mis. Il est possible qu'il y ait eu quelque chose au début. Je ne connais pas Garabandal, je suis jamais allé, je ne suis pas jugé, mais à San Damiano, bon, Mama Rosa avait tellement insisté pour que je vienne lui parler que, à l'occasion d'un voyage à Rome, je dis, bon, on va s'arrêter puis l'entendre, écouter ce qu'elle va dire. Ça, c'était encore dans les débuts. Et la manière dont elle m'a fait le récit de sa guérison, il y avait d'ailleurs la personne qui lui était apparentée, qui était avec elle, ils étaient deux, et c'était elle aussi qui était témoin du miracle, de sa guérison. Il nous racontait ça d'une manière tellement simple, tellement naturelle, sans du tout chercher à se faire valoir, ni que personnellement, il m'a semblé... Vraisemblablement, il y a eu un miracle, et vraisemblablement, c'est la Sainte Vierge, moi, je ne sais pas. Enfin, parce qu'elle a raconté, n'est-ce pas, qu'elle était très gravement malade, elle était à l'hôpital, elle est revenue chez elle, renvoyée par le médecin lui a dit, il n'a plus qu'à mourir chez vous, ce n'est pas la peine de rester à l'hôpital, et il n'y a pas de guérison possible, donc il vaut mieux que vous rentriez chez vous et mourir au milieu des vôtres. Elle est rentrée et elle était mourante, absolument mourante, accompagnée toujours de cette cousine, je crois, ou enfin, pas exactement, qui était toujours avec elle, et est entrée, bon, là, elle était dans une chambre qui est au rez-de-chaussée, elle est dans une pauvresse, et est rentrée et a demandé l'aumône. Elle était venue lui demander s'il ne pouvait pas lui donner quelque chose, qu'elle avait besoin. Alors elle dit, mais je suis moi-même très pauvre, je n'ai presque rien, qu'est-ce que je peux bien donner? Alors, elle a quand même dit à la personne, écoute, prends l'argent qui se trouve à tel endroit, on va partager. Alors, elle dit, elle a pris l'argent, un peu d'argent, presque rien, et a donné à cette pauvresse. Et au moment où cette personne a reçu l'argent, elle a pris la main de Mama Rosa, l'a tirée de son lit, et puis est partie, elle a disparu. Elle était complètement guérie. Bah, c'est un fait, évidemment, qu'elle a raconté comme ça. Elle a dit, je ne sais pas. Pour moi, je me suis demandé, mais qui est cette personne qui a bien pu venir comme ça, venir demander de l'argent, me tirer de mon lit, me guérir, et puis disparaître. Alors elle est allée trouver Padre Pio. Elle est allée voir Padre Pio pour lui demander, mais qu'est-ce que vous pensez, cette personne, ce serait qui? Oh, je lui ai dit, mais c'est la Sainte Vierge, c'est évident. La Sainte Vierge qui est venue vous visiter, qui vous a guéri. Oh, voilà, bon, ce qu'elle a raconté. Bon, ça paraissait, je dirais, assez vraisemblable. Ça n'est rien d'extraordinaire, d'une certaine manière, enfin, sauf, bien sûr, ce miracle, bien sûr. Mais enfin, rien de spectaculaire, vous voyez. Rien de spectaculaire. Alors de là, il semble qu'elle ait reçu ensuite quelques messages de la Très Sainte Vierge. Alors là, elles sont tombées comme une nuée de guêpes, je dirais, des prêtres, des fidèles du monde autour de Mama Rosa. La pauvre Mama Rosa était complètement dépassée. Personne ne savait ni lire ni écrire, n'avait aucune instruction. Hein. Pauvre femme. L'évêque n'a pas voulu s'occuper d'elle, alors que le curé de la paroisse lui était tout à fait favorable. Lui aussi pensait bien qu'elle a vu cette apparition et cette guérison. C'est un homme très raisonnable. Monseigneur Adam la connaissait bien et il était, lui, tout à fait en faveur de cette idée. C'est une très bonne personne, ma maman est une très bonne personne. Personne n'est incapable de mentir ou de raconter des histoires. Je la connais bien. Et donc lui aurait bien voulu diriger un peu les choses. Mais il a immédiatement été écarté par l'évêque. L'évêque l'a changé de poste et l'a envoyé ailleurs. Alors, après, ça a été le désordre complet. Après, la famille s'est jetée là-dessus parce qu'il y avait de l'argent à gagner, bien sûr. Alors, on a acheté tous les terrains des environs, on a construit des hôtels, des magasins, etc. C'était une affaire économique, une affaire financière. Lamentable. Et voilà, le diable, évidemment, se met profite de ces occasions. Or, ne parlons pas de toutes les autres, par exemple, Madurgué, qui favorise l'œcuménisme. Je crois que là, avec affirmations comme celles qui ont été faites au sujet de l'œcuménisme, il n'y a plus qu'à fermer le pèlerinage. C'est sûrement pas la Sainte Vierge, c'est le diable. Alors nous devons évidemment être très, très prudents. Moi, j'ai toujours maintenu cette discipline, je dirais, au séminaire, à part, évidemment, pour des pèlerinages reconnus par l'Église, comme Lourdes ou Fatima. Alors là, nous y sommes allés, pas à Lourdes, je ne me souviens pas, nous soyons allés, encore constitués, si je puis dire, mais à Fatima, oui, pour la consécration de la Sainte Vierge. Nous sommes allés là-bas et invités tous les séminaristes qui pouvaient venir ou tous les prêtres de la fraternité qui pouvaient venir pour faire cette consécration du monde à la Sainte Vierge et de la Russie. Mais ailleurs, personnellement, j'ai jamais voulu y aller encore constitué comme si nous reconnaissions officiellement une apparition dont nous n'avons pas la certitude absolue. Alors que les prêtres, les séminaristes y aillent individuellement, c'est très bien. Ça n'engage pas la fraternité. Parce qu'il faut que nous soyons très, très, très prudents dans ce domaine. Et donc, lorsque nous aurons l'occasion de parler ou bien d'agir, même parce que les fidèles aiment bien les pèlerinages à la Sainte Vierge, et je pense que c'est une bonne chose. Les pèlerinages sont une occasion de prédication. C'est un peu comme une récollection qu'on fait avec un petit groupe de nos gens. Il y a quelques-uns de nos prêtres qui sont particulièrement dévots au pèlerinage. Ma foi, je crois qu'en général, ils réussissent assez bien. Les fidèles sont contents, s'attachent un peu. C'est presque l'occasion aussi pour le prêtre de rencontrer un peu personnellement les pèlerins avec lesquels ils voyagent. Mais parce que vous avez toujours autour des prieurés, il y a toujours quelques pèlerinages anciens. Des pèlerinages anciens, des patrons d'un diocèse, dévotion à la Sainte Vierge dans tel lieu qui date déjà de plusieurs siècles, sais-je, moi. Il y a toujours de belles églises, de beaux sanctuaires qui ont été consacrés à la Sainte Vierge. Faire un pèlerinage dans ces sanctuaires, renouveler un peu la dévotion à la Sainte Vierge qui a eu lieu pendant des siècles dans tel ou tel endroit, c'est au contraire, à mon sens, une très bonne chose. C'est exciter la dévotion de nos fidèles et en même temps prendre un contact personnel avec les fidèles. Je crois que c'est à encourager, personnellement, je crois que c'est une bonne chose. Alors c'est quand confiez votre apostolat à la Très Sainte Vierge, confiez votre sacerdoce à la Très Sainte Vierge Marie, et vivez, je dirais, en compagnie de la Très Sainte Vierge, confiez-lui vos soucis, vos préoccupations, Veuillez là encourager les fidèles à venir réciter le chapelet dans les chapelles et même le rosaire. Voilà, encourager. Et plus on prie, et plus les bénédictions du bon Dieu descendent sur nos prierés. Ensuite, là, je pense qu'il ne faut pas négliger non plus la dévotion à Saint-Joseph. Parce que Saint-Joseph a aussi fait l'objet d'un choix extraordinaire. Oui, Dieu ne lui a pas donné un rôle comme celui de la Très Sainte Vierge Marie, mais lui a donné cependant un rôle extraordinaire en lui confiant, je dirais, ce qu'il a de plus cher, ce qu'il avait de plus cher, la Vierge Marie et notre Seigneur pendant 30 ans quand même. Pendant 30 ans, Saint-Joseph a été responsable et chef. Il a eu l'autorité, une autorité paternelle, n'est-ce pas, de la Très Sainte Vierge Marie, sur la Très Sainte Vierge Marie et sur notre Seigneur, et sur Dieu. Vraiment. Saint-Joseph a commandé le bon Dieu. Il est bien le seul, un choix absolument extraordinaire, quand même, parmi les hommes. Quel homme a eu, peut dire, j'ai commandé Dieu. Et c'est un fait. Oui. On pense que. On peut supposer, on ne sait pas ce qui s'est passé à Nazareth, malheureusement, on n'a aucun détail, sauf la fugue de notre Seigneur au milieu des docteurs. Mais sinon, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Mais on peut supposer très raisonnablement que notre Seigneur a travaillé avec Saint Joseph pendant bien une quinzaine d'années, enfin je ne sais pas, en l'aidant dans son travail. Donc il était constamment avec Saint Joseph, et autant qu'on peut en juger, ben, c'est Saint Joseph qui donnait les ordres. Chose inimaginable. Pour la Sainte Vierge et pour Saint Joseph, ils ont dû avoir des problèmes de conscience, mais. C'est-à-dire, cette personne avec laquelle nous sommes, c'est Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous entretient dans notre existence. C'est lui qui nous connaît beaucoup mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, puisque c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui connaît toutes nos pensées avant même que nous les exprimions, avant même que nous les ayons pensées. Dieu sait déjà ce que nous pensons, ce que nous allons penser. Il connaît tout, il sait tout de nous. Cet enfant qui est grand comme ça, il sait tout de nous. Imaginez le comportement que pouvait avoir Saint-Joseph et la Sainte Vierge. Le bon Dieu leur a donné les grâces particulières pour se comporter avec notre Seigneur, à la fois dans l'adoration, adorer notre Seigneur, dans la discrétion, mais en même temps dans un esprit très naturel, agissant très naturellement. C'est pas possible que le bon Dieu leur ait fait ses grâces et en même temps les ait contraints, les ait mis dans une espèce de contraintes et de gêne continuelle vis-à-vis de notre Seigneur. Ils ont agi très simplement, comme s'ils étaient leur enfant. Tout, ils ont agi très simplement. Mais en même temps, ils ne pouvaient quand même pas nier qu'ils avaient Dieu au milieu d'eux. Oh, oui. Dans des grands mystères, ça. Mystères incroyables, invraisemblables. Enfin, ça leur donnait à tous les deux une dignité qui dépasse toutes les dignités. Donner à une pauvre créature comme Saint-Joseph le droit et le devoir de commander la Très Sainte Vierge et notre Seigneur lui-même. Et quand il a dit, partons en Égypte, mais la Sainte Vierge n'a pas hésité un instant, elle a obéi, on est parti en Égypte, on rentre à Nazareth, on part pour Jérusalem pour le moment de la prière, tout ça, le moment de la Pâque, que sais-je. Par Jérusalem. Alors Saint-Joseph a vraiment eu aussi un pouvoir, un pouvoir sur notre Seigneur, ce pouvoir qu'il a eu sur terre, comme le bienheureux de Montfort le dit pour la très sainte Vierge, ben, dans une certaine mesure, bien sûr, Saint Joseph garde un peu ce pouvoir au ciel, en souvenir de ce pouvoir que le bon Dieu lui a donné sur la terre. Donc il a certainement une puissance d'intercession extraordinaire, extraordinaire, Saint Joseph. Il semble, pas apparemment, qu'on n'ait pas suffisamment jugé, enfin, qu'on n'a pas donné à Saint-Joseph peut-être la place dans les dévotions qui lui revient, parce que c'est quand même un fait exceptionnel. Il n'y a aucun homme qui puisse se prévaloir d'avoir été comme ça intime et en même temps avoir eu un pouvoir sur Dieu lui-même. Alors n'hésitons pas aussi, nous, de confier un peu notre apostolat à Saint-Joseph, de confier nos pensées, nos soucis. On a l'habitude de confier les soucis matériels. Mais enfin, je pense que ce n'est pas suffisant. Saint-Joseph peut faire plus. Et confier aussi les soucis de notre apostolat. Parce qu'enfin, Saint Joseph même a gardé aussi le célibat. Saint Joseph est demeuré vierge. Alors, confions-lui aussi notre vertu et demandons à Saint Joseph de nous aider à rester comme lui, aussi pur que lui, aussi parfait, toute la mesure du possible que lui. Et puis, troisième dévotion qui me semble nécessaire maintenant, à notre époque, pour la fraternité particulièrement, Saint Pie X. Saint Pie X est le dernier saint pape, n'est-ce pas, qui était modèle de simplicité, de pauvreté, de détachement et de fermeté en même temps dans la foi et de force dans la foi. Il a souffert énormément, n'est-ce pas, énormément de toutes ces erreurs et des attaques des modernistes. Il n'a pas hésité à frapper fort contre les erreurs et évidemment ça lui a valu la haine, une véritable haine, et elle existe encore maintenant, n'est-ce pas. Tous ces modernistes haïssent Pie X, pas leur parler de Saint Pie X. Saint Pie X, c'était un primaire, c'était un homme qui n'avait pas une grande formation. Saint Pie X, c'est un frappé sans réfléchir, c'est un homme qui n'avait pas de culture, et etc., etc. Enfin, il le méprise, profondément, Saint Pie X. Oh, il est le dernier pape béatifié. Et dire qu'entre lui, il faut remonter à Saint-Pie V pour avoir encore un deuxième pape. Les deux papes auxquels nous confions et que nous prenons comme modèle, Saint-Pie V et Saint-Pie X, ce seraient deux derniers papes canonisés. On ne peut pas nous le reprocher. Vous dites, l'Église les a donnés comme modèle. Nous les prenons comme modèle. Et surtout, Saint-Pie X s'est sauvé parce que lui, étant plus proche de nous, nous nous trouvons avec les mêmes erreurs, avec les mêmes oppositions, les mêmes difficultés que celles qu'il a eues, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons justement lui demander à Saint Pie X de nous maintenir dans cette foi, dans ce courage qu'il a eu pour combattre l'hérésie, combattre les idées fausses de ce modernisme, du libéralisme. Et lui, le prendre vraiment comme maître à penser, et aimer, relire sa vie qui était tellement édifiante, et puis en même temps, ses encycliques qui sont très instructives. Alors, voilà quelques dévotions qui peuvent nous aider dans notre apostolat. Des exemples à donner à nos fidèles, et puis par exemple les les œuvres de Saint Pidis et les actes de Saint Pidis, aimons éventuellement les commenter, à faire des conférences sur ces encycliques, pour mettre bien nos fidèles au courant des erreurs modernes et les encourager dans le combat, parce que parfois ils auraient tendance à faiblir un peu, n'est-ce pas, devant toutes les attaques que nous subissons. Ils auraient tendance parfois à dire pas toujours combattre, c'est comme ça qu'il y en a qui nous quittent, quelquefois, ne pas fatiguer du combat. Mais si on les entretient justement dans ces principes tels que Saint Pidis les a affirmés et dans le combat que Saint Pidis a mené, alors ils ont un peu plus de courage.
Salve, Salve. Salve.